Kiruna, Stockholm.
Abham Guzri, Dunyan Guzri.
Hyderabad, Istanbul, Mumbai, Sofia, Téhéran, Budapest.
Et sans cesse, le voyage recommence pour partir vers de nouveaux horizons.
Vienne, Lausanne.
Fred.
Julie. Julie.
Fred.
Fred et Julie.
Un week-end en Eurasie.
Vous écoutez Radio Suisse Romande la première et le voyage a déjà commencé.
Kiruna, aujourd'hui nous sommes à Kiruna pour cette deuxième étape. Cette deuxième étape pour une ville suédoise au-delà du cercle polaire. Deuxième étape d'un voyage eurasiatique que nous vous proposons qui sera pas comme les autres.
Ah bon?
Ben non, il sera politique.
Oh non.
Alors touristique.
Oh c'est vrai.
Économique. Non, pas du tout. Ce sera un voyage comme on a envie de vous le présenter. Juste avec des rencontres, des interviews, des sons, des atmosphères. Et puis des gens chez qui on va débarquer, qui vont nous ouvrir tout leur carnet d'adresses, qu'on va feuilleter pour avoir des rendez-vous comme ça chaque fois éclair. En quelques jours, rencontrer des cinéastes, des réalisateurs, des musiciens, des balayeurs de rue, des personnes aux activités un peu douteuses. Mais tout ça, vous le verrez ces prochains week-ends.
Fred et Julie, un week-end en Eurasie. Tous les samedis et dimanches, de 16h à 17h jusqu'à la fin de l'été.
Welcome to Kiruna.
Comme l'indique ce beau jeune homme que vous ne voyez pas, qui nous souhaite la bienvenue à Kiruna, nous sommes depuis le week-end dernier dans cette ville au nord-nord de la Suède, une ville bien froide. Kiruna, on en a déjà vu le dessus. Alors la ville, les supermarchés, les églises, enfin tout ce qui fait une ville du dessus. Et en fait cette ville, eh ben, elle a un dessous. Non pas qu'elle ait un grand jupon qu'il faut soulever, mais elle a un dessous. Et son dessous, c'est la mine.
Mais pas tout de suite, pas tout de suite.
Non, pas tout de suite, car avant de s'enfoncer dans le noir, de plus rien voir du ciel bleu, eh bien rafraîchissons-nous les idées et les yeux au son d'une petite rubrique pas très sérieuse que nous avons concoctée.
Petite collection des choses insolites.
Petite collection des choses insolites.
Les cabanes sur les lacs gelés.
Ici, à Kiruna, la pêche s'est ouverte samedi dernier, un samedi comme ça dans le mois.
Elle s'est ouverte. Alors les gens, ils ont été installés des petites cabanes sur le lac, donc les lacs ils sont gelés, ils ont plus parfois de 80 cm à 1 mètre d'épaisseur de glace. Ils ont construit une petite cabane, ils ont mis à l'intérieur un feu, un poêle à bois, ils ont mis un petit siège. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont ouvert la glace et là, assis sur leur petit fauteuil dans leur petite cabane, ils pêchent.
Et parfois ils mettent même un lit.
Et oui, et quand le poisson est là au bout du fil, et ben ils le cuisent, ils le mangent et dorment.
Les voitures ont des prises électriques à Kiruna.
Les voitures à Kiruna ont des prises électriques.
Ouais, c'est vraiment très très drôle. Donc quand les voitures sont parquées devant les maisons, elles sont toutes reliées par une sorte de cordon ombilical qui rejoint la voiture à la maison. Ben oui, c'est pour les chauffer, les tenir au chaud. Elles sont fragiles par moins 20, moins 30, moins 40. Les moulins ont parfois de la peine à démarrer. On connaît ça déjà sous nos latitudes, alors qu'est-ce que ça doit être là-bas? Donc il y a un petit corps de chauffe qui tient la masse comme ça, huileuse et graisseuse du châssis, au chaud. Et puis un petit ventilateur au chaud, comme ça quand on entre dans la voiture, elle est toute chaude. Mais il ne faut jamais oublier d'enlever la prise quand on part.
Ici, à Kiruna, comme tout est gelé, comme tout est plein de neige, les gens ont des sortes de petits traîneaux pour aller faire leurs courses.
C'est une sorte de luge. De luge, mais où on est debout.
Sauf que celle-ci, elle glisse.
Elles ont des sortes de longs patins en métal.
Oui, et puis devant, il y a comme une petite chaise où on peut poser toutes ses courses.
Ou les bébés.
Ou des gens.
Et des patates, parce qu'ils achètent des patates au supermarché, ils les posent là-devant. Et ensuite, ils grimpent dessus et d'un pied, ils poussent comme une trottinette.
Et surtout, il y a plein de vieilles dames qui l'utilisent. Et c'est très drôle parce qu'elles descendent toutes les pistes de Kiruna à fond la caisse.
Elles sont folles.
Mais non.
Elles sont très agiles. Le froid doit rendre agile, moi je crois.
À Kiruna, il fait très froid.
À Kiruna, il fait très profond.
Et du coup, les gens... Que ce soit à la mine ou dans la vie quotidienne, oublie de dire qu'il fait plus ou moins.
Il fait, c'est tout.
De ce fait, on dit « Aujourd'hui, il fait 15. Oh, il fait 17 aujourd'hui, il fait assez chaud finalement. Oh, il fait 20, il fait un petit peu plus frais qu'hier, dis donc. »
Donc, c'est toujours moins 17, moins 15, moins 20.
Ils sont fous, ces Suédois.
Et puis, quand on parle des mines, quand on descend dans les mines, on dit « Ici, on est à 765. »
Ils sont très... moins.
Alors qu'en fait, ils sont à moins 765 mètres. C'est profond.
Avez-vous déjà eu envie de vivre dans votre réfrigérateur ? Eh bien, à Kiruna, c'est possible. Vous pouvez aller dans le palais des glaces et dormir dans un lit tout en glace, vous asseoir dans des fauteuils tout en glace, prendre votre petit déjeuner dans des fauteuils tout en glace ou bien regarder les informations sur un écran de glace.
C'est surtout un très bel événement touristique.
Oui.
Ils ont donc taillé, avec des gros cubes de glace, un hôtel entier. Donc chaque automne, comme ça, ils engagent tous les artistes du coin, ils y réquisitionnent, ils les payent, c'est mieux que le chômage. Et on leur demande de tailler les lits, on leur demande de tailler les fauteuils, on leur demande de tailler les verres pour boire de la vodka et faire un bar.
Et on peut même se marier, car maintenant, il y a une église.
Alors par exemple, les Japonais, je dis les Japonais parce qu'on va aller bientôt à Tokyo, les Japonais, eux, sont fervents de pouvoir se marier là-bas, lors de la plus longue nuit, là où on voit le soleil de minuit, pour pouvoir se marier là-bas. Ils ont deux mariages tous les jours dans l'église qui est faite en glace.
Ça s'appelle le Ice Hotel. Et on attend bientôt les habits tout en glace pour pouvoir aller dans ce Ice Hotel.
Y existe-t-il des capotes en glace ? À côté de l'Ice Hotel, donc l'hôtel des glaces, il y a une école de sculpteurs sur glace.
Car l'hiver, comme on l'a déjà dit, est froid à Kiruna. Et de ce fait, il y a des gens qui apprennent depuis et qui viennent du monde entier pour apprendre à sculpter dans la glace.
Il y a des Japonais, il y a des Africains, il y a des Américains, des Sud-Américains qui sont là pour apprendre à faire du superbe art sur glace.
Et après, ils l'exposent sur les routes de Kiruna. Donc maintenant, toutes les routes à Kiruna, quand on passe en voiture, il y a des allées de sculptures sur glace.
Lorsque vous essayez de démarrer comme ça le matin, puis que ça a givré et que votre moteur ne démarre pas, est-ce que vous avez réalisé qu'il a pourtant été testé au nord le plus extrême ?
À Kiruna même, et oui, il y a Renault, Mercedes, Volvo, qui ont une spéciale entreprise où ils testent les voitures par le plus grand froid.
Donc chacun a sa propre entreprise, et chacun est concurrente, et chacun essaye de prouver qu'ils sont totalement confidentiels dans leurs tests, afin de ne pas montrer aux autres comment est-ce qu'ils testent leur véhicule.
Donc on n'a pas pu voir de près.
Tellement c'est confidentiel.
Mais on sait, parce qu'on les a vus faire.
Donc on les voit comme ça partir et puis se cacher parce qu'ils doivent aller faire le plein de temps en temps et surtout pas montrer parce qu'ils ont les derniers prototypes des voitures qu'on ne peut surtout pas savoir lesquels c'est. Pendant 15 jours, ils se promènent avec leur voiture, ils les testent, ils les allument, ils les éteignent et puis ils regardent si ça freine.
Et puis on a la même chose pour le chaud.
Ça c'est au Mont Ventoux.
Pour l'altitude.
Ça c'est sur le Simplon.
Et voilà. Ocean. Ocean is a voyage.
This is a voyage.
Ocean is a voyage.
This is a voyage. A long, long voyage.
Going up, up, up. Going down, down, down. Going up, up, up. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray. The dull, dead wind is out of tune. And like a withered leaf, the moon is blown across the stormy bay. Going going down, down, down. Going up, up, up. Going down, down, down. It's clear upon the pallid sand lies the black boat. A sailor boy clambers aboard in careless joy, with laughing face and gleaming hands. And overhead, the curlew's cry. Kiruna, cette ville au nord de la Suède, réserve bien des surprises. D'abord par sa position géographique, puisqu'elle est tout au nord de ce long et étroit pays qu'est la Suède. Savez-vous par exemple que c'est plus long d'aller de Stockholm à Kiruna que de Stockholm à Lausanne? On dirait pas, hein? Eh bah, ben, parce que déjà Stockholm paraît bien bien loin du lac Léman. Et puis, quand enfin on arrive après 4000 km dans cette ville, 4000 km de train, dans notre cas, c'est long, on se demande qui c'est qui peut bien vivre là.
D'abord, il fait très 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 froid l'hiver.
C'est vrai. Ça peut descendre jusqu'à moins 40. Comme quand nous, on y était en mars dernier. Il faisait froid, mais froid, un froid glacial. Et que quand même c'est l'été, on croit enfin qu'on va pouvoir s'arrêter et puis s'asseoir sous les parasols. Et bah, pas possible, parce qu'il y a des nuées de moustiques qui vous envahissent partout, sous vos habits, sur votre visage, sur les mains.
Des milliers, on s'arrête 30 secondes au bord d'un lac, et puis paf, on a le visage tout noir de moustiques. Alors il faut se les taper, se donner des baffes à longueur de journée. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des gros moustiques et il y en a des tout petits. Ils arrachent la peau quand ils repartent.
Oh ! Et pourtant, il y a des gens qui aiment cette ville.
Mais ouais, Kiruna, moi j'adore parce que bah, le froid déjà c'est beau. Ça vivifie et puis on vieillit plus longtemps, il paraît. Enfin, on vieillit plus tard. Enfin, tout ça pour dire que Kiruna, c'est une ville très particulière. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au-delà du cercle polaire, là où se trouve cette ville, tout au nord de la Suède, c'est la capitale de la Laponie. La Laponie est le peuple des Lapons. D'abord, on ne va plus dire ni Laponie, ni Lapons, mais appeler le peuple Samé aux Sapmi, qui sont en fait les appellations plus politiquement correctes, qui ne sont pas l'appellation donnée par les colons, mais vraiment celle de ce peuple autochtone de 70 000 habitants. Au même titre donc que les peuples aborigènes, l'Australie ou les Amérindiens, aux États-Unis ou en Amérique en général, c'est un peuple qui se défend pour ses origines, pour ses traditions, qui a aussi été poussé le plus au nord possible. Ils disent, si on est au nord, c'est pas un choix, hein, c'est seulement parce qu'il nous reste que les montagnes de neige où on a le droit d'habiter, et qui se sont fait sédentariser petit à petit, principalement depuis les 100 dernières années. Obligation faite de rester aux mêmes endroits, Mais malgré tout, leur lutte continue pour défendre la culture du renne, l'élevage et puis leur tradition.
Et si cette ville est là tout au nord de la Suède, c'est d'abord parce qu'effectivement il y avait des Samets qui habitaient déjà là, mais c'est surtout parce qu'un jour, il y a exactement 100 ans, on a trouvé du fer. Du fer à la pelle, du fer à ne plus savoir qu'en faire. Et du coup, les Suédois, qui ne sont pas fous, ils ont ouvert une mine. Et pas n'importe quelle mine. En arrivant à Kiruna, on ne peut pas louper. C'est une énorme montagne, pelée, avec autour plein de cheminées qui fument de la fumée noire. Une mine, quoi.
Une mine énorme. Elle s'étend souterraine, d'un bout à l'autre de la ville. C'est des kilomètres et des kilomètres. Alors qu'on entre d'un côté ou de l'autre, c'est énorme et c'est surtout très très profond. Vous allez le voir tout à l'heure, on va descendre jusqu'à moins 800, moins 900, voire jusqu'à moins 1200 mètres. On va entrer avec une voiture, on va s'enfiler dans des boyaux, dans des couloirs, dans des énormes tunnels pour descendre comme ça en spirale, tout au fond de la Terre.
On est en train de descendre dans la mine avec Emmanuel. C'est très noir, c'est une grosse autoroute un peu, avec c'est très large. Il y a même des panneaux de signalisation, comme sur une route. C'est impressionnant, on sent d'être dans un grand tunnel en fait.
Les gros tuyaux jaunes là, qui font 1,5 mètre de diamètre, c'est de la ventilation.
Ouais.
Et il y a aussi des grosses canalisations d'eau. Paradoxalement, il y a beaucoup d'eau, c'est un problème dans la mine, il faut la pomper dehors. Mais pour l'exploitation, il y a aussi besoin de beaucoup d'eau sous pression, donc on en fait revenir à l'intérieur.
Donc nous sommes dans une grosse Jeep, Emmanuel est notre guide, Emmanuel Henry, qui est technicien français, dans les mines LKB, ici à Kiruna. Julie a mis son petit casque jaune, elle a mis sa blouse verte, elle a mis ses bottes noires et rouges. Frédéric a fait de même aussi avec son costume intégral. Et donc nous descendons, nous allons descendre jusqu'à quelle profondeur, Emmanuel ?
1180
mètres de profondeur, donc ici, sous Kiruna.
Cette galerie-là, c'est 7 mètres de large, 7 à 9 mètres de large, suivant les endroits, et 5 mètres de haut.
Et alors, tu disais que la mine, elle fonctionne pratiquement 24 heures sur 24,
ouais.
Et sauf au moment des tirs.
Oui, c'est ça, ouais. Il y a des tirs d'exploitation. Les petits tirs locaux, là, c'est pas gênant. C'est en fait pour des raisons de sécurité, à cause de la ventilation et des gaz qui sont créés par l'explosion. Ils sont tout simplement mortels et consomment l'oxygène qui, de sorte que ça asphyxierait les gens qui se trouveraient dans les parages.
Et ça, ces tirs-là, ils existent que tard dans la nuit, c'est ça, vers 1h du matin?
1h15 à 1h30. Si, par exemple, j'ai poinçonné ma carte, si j'ai oublié de la poinçonner en sortant, s'il ne me retrouve pas, si après avoir appelé chez moi, j'ai pas répondu, si personne ne peut prouver que je suis dehors, ils annuleront le tir.
Donc là, nous voyons plein d'intersections, des contours. Comment est-ce que tu sais ton chemin et où allons-nous exactement?
Là, la première étape, je vais vous montrer ce que c'est qu'une station de béton sous terre et qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme excavation sous terre vers les 300 mètres. Là, c'est la route qu'on prend. Là, c'est la voie d'accès principale qui mène partout, qui descend jusqu'au plus profond de la mine.
Et c'est un réel labyrinthe, tu suis des numéros, qu'est-ce que tu suis comme indication?
Cette route-là, elle est goudronnée, il faut la prendre comme une artère principale. Il y a des numéros un peu partout, des numéros de niveau, Au début, pour moi, c'était un vrai labyrinthe, maintenant je commence un peu à me repérer.
Donc là, on s'arrête dans une sorte de grand hall, il y a des containers, ça fait un peu monde d'après-guerre, comme ça, bombardé, une sorte de bunker. On est à moins combien ici?
Pas beaucoup, on est à moins 500 des brouettes, moins 588 je crois.
Ok, moins seulement 1,5 km de profondeur depuis la surface.
C'est juste pour voir, là la hauteur, j'estime à une vingtaine de mètres, je la connais pas exactement. Ça fait à peu près 20 mètres de haut quand même, hein. Et puis au moins 10 mètres de large. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on peut ouvrir des trucs aussi grands que ça dans... Là, le béton, c'est juste une station de béton, comme on voit des fois sur Terre, au-dessus de... Voilà, c'est tout.
Ici, tout d'un coup, une porte taille dans la roche, et oh, surprise, on arrive dans un couloir, très beau, un peu couloir d'hôpital, comme ça, très blanc, avec plein de portes, très clean. Donc ici, c'est des bureaux sous terre.
Avec des plantes et des photos de cul, partout.
Et là, des paysages, des beaux paysages, avec des phoques et des pingouins.
Et comment ils font, les gens, pour avoir le courage de venir travailler tous les jours ici?
C'est payé un peu plus cher.
Ils ont un restaurant.
Il y a un restaurant là, oui.
Ah ouais. Vraiment organiser une vie sous terre. Vous écoutez Radio Suisse Romande à première avec Fred et Julie, embarqués par moins 800 mètres avec Emmanuel Henry pour guide dans les grandes mines de Kiruna. Kiruna, la ville du Grand Nord suédois.
Donc là maintenant on est dans toujours un boyau de plus en plus petit, cette fois il n'est pas bétonné. Combien de kilomètres de corridor il y a comme ça dans cette mine?
Plusieurs centaines de galeries percées. Une partie encore, praticable, traficable. Une autre qui a été détruite, qui se trouvait dans les anciens niveaux d'exploitation, qui maintenant ont été complètement broyés. Par contre, ce qui est encore vrai, c'est qu'on peut faire à peu près, on peut suivre une route, là, qui longe les minerais sur 4 km à peu près.
Donc maintenant le sol est de gravier, on est à quelle altitude ou quelle profondeur plus exactement?
765.
765, niveau 765, ah oui, il y a un panneau juste là. Il y a des phares, on va croiser une Jeep en face, un Trax complètement impressionnant, on voit 8 roues, 16 roues. C'est une lame en fait, c'est un...
Une
niveleuse, donc une sorte de chasse-neige des terres. Donc ça s'enfonce, c'est de plus en plus humide, il y a du gravier par terre, les essuie-glaces fonctionnent pour nous dégager la vue, des gaz d'échappement comme ça, un peu en suspension. Quelques lampes d'alarme autour. Là, ici, plus aucune lampe, donc il n'y a plus que nos phares qui éclairent en fait tout ce chemin. Aucun néon, aucune. Notre présence, ah oui, des sprays sur les murs nous indiquant les niveaux et les directions. Là, c'est les niveaux d'exploitation maintenant.
On va dans une exploitation qui est finie, dans des galeries là qui sont prêtes pour l'exploitation, mais qui n'ont pas été encore, qui n'ont pas commencé à être exploitées. Mais c'est pour que vous voyez ce que c'est qu'une galerie, comment ça marche.
Et là, on est au bout ou on est au début ?
On n'y est plus, mais ça va s'agrandir, t'inquiète pas. Ça va s'agrandir un peu.
Donc là, on arrête la voiture, on va sortir, il n'y a aucun éclairage, donc il y a juste les phares qui éclairent.
Non, là, il y a une lumière de...
Ah ouais. On n'avait pas vu tout là au fond, donc c'est pour ça qu'on a les lampes de poche, j'imagine. C'est avec plein d'enthousiasme que l'on sort dans cette obscurité inquiétante.
Ouais.
On va allumer nos lampes de poche. Voilà, donc maintenant notre petit faisceau de lampes de poche va un peu éclairer ce qui se passe autour.
Voilà, il n'y a plus qu'à suivre la galerie.
Voilà, là c'est un bloc qui risque de se détacher. Ils ont juste mis des petits boulons, puis c'est beau.
Et puis ça va tenir ?
Ouais.
Génial. Alors on va sous le bloc, là donc.
Nous sommes à Kiruna, dans les mines de Kiruna, des mines de fer qui sont les... très très grosse mine, je crois que l'une des plus grosses d'Europe, très moderne aussi. Il y a donc des galeries absolument partout, on est assez bas sous terre, à moins 700 ou moins 800.
Donc on s'est aventuré là au cœur de la montagne, on est descendu avec une voiture dans des petits corridors, une grosse voiture pour descendre des kilomètres et des kilomètres de couloirs. Pour arriver à ces niveaux, on ne va pas descendre jusqu'à moins 1200 mètres parce qu'on commence à avoir un peu notre claque d'être comme ça sous la terre avec cette ambiance de bruit d'eau qui coule, de ventilation, de machines qui tournent dans tous les sens. Et puis donc on est au cœur de ces souterrains où on sait que demain ou après-demain peut-être ils vont mettre de l'explosif pour faire péter ces petites galeries et donc rendre ce minerai plus accessible aux machines.
3 mines dans le monde, on se gabarit là.
C'est quoi les 3 mines ?
Il y en a une au Chili qui s'appelle El Teniente et une en Australie qui s'appelle Mount Isa. Ici, ils se vendent d'être la plus grosse. En réalité, ça dépend qu'est-ce qu'on compare. Est-ce qu'on compare le tonnage de minerai qui sort ? Est-ce qu'on compare la longueur des galeries percées ? Est-ce qu'on compare... je sais pas, il y a... Mais bon, c'est pour ça que c'est difficile de dire laquelle est la plus grosse vraiment, mais...
Voilà, donc là on est dans une voiture, le bruit qu'on entend c'est l'eau qui perle sur le toit.
Impressionnant quand même.
Ah, c'est impressionnant. C'est noir total et c'est vraiment très noir, on est vraiment sous la terre.
Moi ma plus grosse peur c'est un jour que ma lumière s'éteigne, ouais. Ma voiture que je l'ai garée, que je l'ai éteinte. Et que c'est ça, et tu peux passer à 2 mètres de la voiture sans t'en apercevoir.
Et du coup, tu laisses pas toujours tes phares ?
Non, parce qu'une fois ça m'est arrivé, puis la voiture n'a pas démarré.
Ah oui.
On a été obligé de la pousser comme des malades, on était à deux heureusement, sinon j'aurais pas pu tout seul. Ouais. Sinon, je me tapais 4 km au moins à pied pour revenir jusqu'au moins au niveau à 775. Non, c'était pas spécialement drôle.
Non, j'ai réussi.
On est plus très loin de la sortie. Hein. Non, il y a des endroits là où on peut se garer là sur le côté.
Ouais, pour les
Menai, menai, ma diedo diero.
Fred et Julie sur la première.
Il n'y a pas grand monde, il y a 300 personnes mais diluées sur près de 4 km de gisement. Un facteur important, c'est que cette mine-là doit concurrencer avec des mines... va chercher à 1000 mètres sous terre, ce que les Brésiliens ou les Australiens cherchent à même la surface. Ce qui fait que ça oblige à un constant développement technologique. Et c'est aussi pour ça que j'ai été embauché, moi, par exemple. À cause de la crise économique en Asie, on construit plus autant, on consomme moins de fer, on construit moins de voitures, on achète moins de voitures. Enfin, c'est ce qui fait que les Japonais, les Allemands et les Américains n'arrivent plus à vendre leur fer, ce qui fait qu'ils n'achètent plus eux-mêmes du fer, du minerai de fer, aux Suédois, aux Canadiens, aux Australiens et ainsi de suite. Et cette année, là, en automne dernier, le cours du fer a perdu 11%, ce qui est énorme, sachant qu'une tonne de fer, ça coûte rien, quoi. Et donc c'est rapidement dramatique de perdre 11%. C'est peut-être plus grave pour l'or, pour le fer de perdre 11% que l'or de perdre un quart de sa valeur. Le niveau d'exploitation est autour de 700 mètres. Et les niveaux les plus profonds, qui sont déjà en préparation, c'est autour de 1000 mètres actuellement. Et les stations de la station de train est à 1000 mètres aussi. Et puis ensuite, il y a toutes les diverses installations, des pompes, tout ça, qui se trouvent à 1200. Enfin, 1100, 1200. Le train, là, se trouve au plus bas. Et charge le minerai de fer qui se trouve dans des silos, qui sont en fait, les silos sont creusés dans la roche. Le fer remonte à la surface et part directement pour Narvik ou Luleå.
Une ligne droite, un seul rail, de chaque côté des montagnes enneigées, des arbres plantés, des lignes et des lignes. C'est le trajet Kiruna-Narvik. Que fait chaque jour plusieurs trains qui transportent en fait le fer depuis la mine jusqu'à Narvik où elle sera transportée en bateau vers sa destination finale. Nous sommes dans le train, donc dans la locomotive à l'avant. Il y a très peu de place, nous sommes quatre, le conducteur, celui qui est chargé aussi de notre sécurité, et puis nous deux. Derrière, 52 wagons, c'est énorme. Le train est très lourd, il avance lentement, 60 km/h, dans ce paysage glacé. Dans un train, il y a environ 4000 tonnes de fer. Et normalement, on envoie à Narvik 10 ou 12 trains, ce qui fait 40 à 50 000 tonnes par jour. D'habitude, les mines de Kiruna produisent un peu plus de 20 millions de tonnes par année. 22, 23, quelque chose comme ça. Mais cette année, la production sera plus faible. Je suis le chef de la sécurité pour la MTAB.
Et mon nom est Christer Bernhardsson.
Avec le chef de la sécurité des mines de Kiruna, nous avons pris la voiture pour arriver jusqu'à Abisko. Et là, après quelques téléphones, il a donné l'ordre au train de s'arrêter pour nous laisser monter. Nous avons donc vu les phares tout au loin sur les rails. Nous avons vu notre chef de la sécurité descendre sur la voie avec sa veste orange fluo, étendre les bras pour être sûr que le train s'arrête. Et cet énorme convoi de plusieurs centaines de tonnes s'est donc immobilisé à 2 mètres de lui. Cette locomotive, en deux mots, c'est une locomotive énorme qui est vieille, qui a 30 ans. Ils en ont une quinzaine, comme ça. Elle est en trois parties. Chaque partie a un groupe de moteurs. Les trois parties sont appendues l'une à l'autre et sont nécessaires pour tirer cette masse incroyable de métal. Nous allons arriver tout près d'une petite gare qui s'appelle Vassiores. Et c'est un magnifique paysage qui s'étend autour de nous. Nous avons déjà croisé deux ou trois rennes décapitées par le train dans cette ligne la plus au nord du monde, dans cette ligne mythique qui rejoint Stockholm à Narvik, mais que nous empruntons là, non pas dans un train pour passagers, mais dans ce convoi des mines de fer LKAB de Kiruna.
Le convoi est maintenant immobilisé au cœur de la terre, sous un tunnel, en tout cas la locomotive. En face de nous, un gros feu rouge indique l'interdiction de passer. Et on voit au loin un croisement, donc un autre itinéraire dans la roche qui est taillé pour le train que l'on attend, donc qui va venir d'en face. Les moteurs tournent au ralenti, juste le compresseur pour garantir la pression dans le circuit. Et nous sommes là les quatre dans ce tout petit habitacle. Le chauffeur assis sur son grand fauteuil, Julie assise sur son petit strapontin, le chef de la sécurité, Monsieur Bernardson, debout à côté de moi, et moi tout coincé contre le rétroviseur sur la droite de la locomotive.
Comme il n'y a qu'une seule ligne, les trains sont obligés d'attendre que l'autre train passe. Donc nous avons attendu tout à l'heure le train en direction qui venait de Stockholm et qui allait à Narvik, et celui de Narvik qui allait à Stockholm, qui se croisait dans les deux sens. Le conducteur nous a dit que normalement, le train, quand il transporte en fait le fer, lorsqu'il est plein, est prioritaire, parce que ça pèse très très lourd sur les rails. Mais malgré tout, pour les trains aussi importants comme la ligne Stockholm-Narvik, eh bien, il faut attendre.
Donc si on parle de cette ligne mythique, c'est parce qu'elle rejoint donc Stockholm à Narvik, Stockholm, capitale de la Suède, à Narvik, tout au nord de la Norvège. Et en fait, ici, c'est pas très large en fait les pays, si on regarde sur une carte. De Kiruna à la frontière, il y a 150 km, et ensuite il y a 50 km au maximum de côte norvégienne, c'est-à-dire entre la frontière suédoise et la côte elle-même. Et puis donc, ce trajet en fait de train de Kiruna à Narvik, c'est la possibilité pour l'extrême nord de la Suède, le cœur du Sápmi, la Laponie, de pouvoir exporter le métal, de pouvoir trafiquer avec les côtes, de pouvoir être près des grands ports pour pouvoir exporter toute cette marchandise précieuse aux quatre coins de la terre.
puis alentour, donc il y a toujours ce lac immense, ces montagnes partout, ce blanc, ces toutes petites gares avec en fait leurs bâtiments en briques rouges, quelques maisons éparses autour, toujours dans ce style qu'on a retrouvé à Kiruna, petites maisons qui se veulent en bois mais plutôt industrielles. Là, elles sont plutôt de couleur rouge dans les petits villages qu'on a traversés jusqu'à maintenant. Et là, on arrive dans la gare.
Ce son strident a cassé les oreilles, c'est le signe de la fin d'un voyage, le signe de la fin d'un trajet. Nous deux, dans une locomotive, dans un long convoi de 52 wagons, menant le lait minéré de fer de Kiruna, en Suède, à la Norvège, Narvik, port, sur la mer. C'est le signe de la fin de ce petit périple, de ce petit trajet, qui a vu transporter donc 52 wagons, c'est-à-dire 4000 tonnes, qui sont acheminés comme ça toutes les heures, toutes les deux heures, entre ces deux pays. De là, nous allons voir le port, nous allons voir les wagons se faire éventrer, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un énorme hangar, ils sont arrosés d'eau chaude pour pas qu'il y ait trop de poussière qui s'envole, et là des vérins ouvrent le dessous, le ventre des wagons, et le minerai se déverse sur des énormes, énormes, énormes tapis roulants. Tapis roulants mènent le minerai sur un autre tapis roulant, et de là ça va partir dans des grands tuyaux pour les amener tout au bout, bien au-delà du fjord de Narvik, mais pour être tout à la pointe, et là des gros ferries, des grosses péniches, d'énormes bateaux vont prendre toute cette matière pour l'Asie, l'Allemagne ou les États-Unis.
Mais en attendant, Narvik. Narvik, c'est quoi ? Narvik, c'est un port, c'est un étrange endroit, une mer grise, certainement très froide, peut-être même est-elle gelée, des bâtisses abandonnées, fenêtres sans vitres, puis plus loin, les nouveaux bâtiments en béton, carrés, mais déjà usés. Et à l'horizon, en tout cas dans ce qu'on voit, pas un seul bateau. Et oui, comme l'a dit Frédéric, le port n'est plus au même endroit. Et celui-ci, au cœur de la ville multicolore, ne sert plus que d'entrepôt. Il n'est plus qu'un entre-deux. Pauvre port abandonné. Mais il n'y a pas que la fuite des bateaux dans notre port. Il y a aussi la crise asiatique qui a jeté un voile gris sur cette cité. Le fer s'accumule, mais ne se vend plus. C'est la faute de Singapour, de Hong Kong, de ces dragons asiatiques qu'on ne connaît pas, qui sont là-bas au bout des mers. Si ce port, ce port de Narvik, cette ville ressemble parfois plus aux ruines des bandes dessinées d'Anki Bilal qu'à un haut lieu d'échange commercial. Alors en attendant que le commerce reprenne, eh bien la neige de Narvik continue de se recouvrir de noir, de ce noir qui vient des wagons qui transportent le fer, et les particules de fer, elles s'envolent, et elles se collent à la neige, et elles donnent à Narvik un air, mais sale, crade, il y a de la neige partout, mais vraiment, on n'a pas envie de rester.
C'est donc avec cette belle constatation sur ce haut lieu de villégiature nordique que nous décidons de reprendre un train, mais cette fois-ci le train des voyageurs, on en a d'autres claque d'être dans des locomotives de train allant entre 20 et 40 km/h. On va reprendre un train direct, Narvik-Kiruna, un train de passagers, toujours en compagnie de notre surveillant et contrôleur et de la sécurité des usines. Pour retourner sur Kiruna, on va clore notre étape nordique. De là, on va prendre nos bagages, on va dire au revoir à toutes ces rencontres, à tous ces gens. Et puis, on va prendre nos sacs à dos, on va remonter dans le train direct Kiruna-Stockholm, 2000 km plus au sud. Et de là, on va prendre un autre avion qui nous attend.
Böljan mig min grav redar. Ingen hjälper nu. Var ett skalle jag
Julie se change, je suis assis dans le compartiment et l'obscurité est là, dehors. La neige, le train file. Stockholm, Paris, et oui, surprise, Paris, puis nous allons sur Singapour. Singapour, normalement 2 jours, puis avion pour Tokyo, si tout se passe comme prévu. Kiruna donc, loin derrière nous. Kiruna, ça ressemblait à quoi? Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, un peu de tristesse de partir de là-bas. Et puis l'état d'image. Julie, une image particulière de Kiruna?
L'image de Frédéric se préparant à sortir dans le grand froid, avec un énorme bonnet en fourrure, avec un anorak très gros, avec des grandes bottes qui lui montaient jusqu'aux genoux. Je l'avais jamais vu comme ça. Annette a beaucoup rigolé hier soir, nous parlant de l'absence de... que les hommes, en fait, à Kiruna ne sont pas du tout sexy, parce que justement, alors qu'ils séduisent les filles dans les cafés avec justement leur bonnet de fourrure et leurs grands anoraks, au moment de se déshabiller dans les chaumières chaude, paf, ils enlèvent leur pantalon et qu'est-ce qu'il y a dessous? Ben, une espèce de collant de couleur douteuse et puis qui remonte sur le devant et qui pend sur les fesses et elle dit que vraiment c'est très difficile d'être sexy à Kiruna pour un homme.
Une odeur de Kiruna.
C'est l'odeur de la neige et en même temps, c'est l'odeur de la mine. Moi, j'ai l'impression que ça sentait le fer, que ça sentait en tout cas comme je sais pas, des molécules de fer dans l'air, j'avais ce sentiment.
Et puis un son caractéristique de Kiruna ?
Crissement des pneus sur la route et surtout le silence. Moi, c'est ça qui m'a frappé à Kiruna. C'est pas le bruit, c'est le silence de Kiruna. Kiruna, c'est comme une station de ski, je trouve. Avec ces petites maisons, avec justement les remontées mécaniques sur une petite colline juste derrière, avec un supermarché au centre de la ville, et puis après les boutiques, comme il y en a dans les stations de ski. Pas très belles, pas très lumineuses, mais avec plein de choses hétéroclites à vendre, à louer, à prêter.
Kiruna, nous partons pour aller rejoindre Stockholm, la capitale, pour 3 heures, le temps d'un café, et quelques petites boulettes de viande, pour prendre l'avion.
Singapour, Paris.
Caramba.
Thank you.
Ici se termine la deuxième étape de ce voyage eurasiatique. Après Copenhague, Kiruna, demain nous vous donnons rendez-vous sous les grands ventilateurs du Lao Passat à Singapour.
Cette émission a été réalisée par Frédéric Chauffat et Julie Gilbert, derrière la grande vitre du studio Patrick Deram et à la décoration musicale Carmen Algarada.
Pour cette émission, nous remercions Emmanuel Henry, Christer Bernardson et les mines LKAB.
Et puis les musiciens, vous avez entendu durant cette heure Hector Zazou avec la voix de Suzanne Vega, Globit, Duncan Dance, Plasmas et l'album Du Nord rêvé au rêve du Nord du groupe lausannois DSB.
Ni lyssna på Radio Suisse romande la première. Au clock en R5.
Radio Suisse romande la première, il est 17h.